Hoffman, le magnétiseur, cinquième partie, fragment d'une lettre d'Alban à Théobald. La piété est une habitude constante des actions pieuses, et toute action pieuse est une hypocrisie, bien qu'elle soit faite dans le but non pas tant d'abuser le prochain que de se délecter soi-même, au reflet éblouissant de l'éclatante auréole d'or faux à l'aide de laquelle on s'est improvisé saint. N'as-tu pas senti maintes fois, mon cher Bramine, s'élever dans ton propre sein des mouvements et des idées que tu ne pouvais concilier avec ce que tu tiens pour juste et sage, par suite de l'habitude et sans oser sortir de l'ornière creusée par la morale surannée des nourrices? Or, tous ces doutes contre les principes dogmatiques de ma mère loi, tous ces bouillants penchants qui viennent se heurter contre la digue artificielle opposée à leur torrent par les systèmes des moralistes, l'irrésistible tentation de secours, joyeusement dans l'espace, les ailes rapides dont on se sent pourvu, et de s'élancer vers les régions supérieures, ce sont là, nous dit-on, autant de pièges de Satan, contre lesquels ont bien soin de nous prémunir les pédants ascétiques. Nous devons à les entendre fermer les yeux, comme des enfants crédules, pour éviter d'être aveuglés par les rayons éblouissants de la splendeur du Christ saint, qu'il nous montre partout dans la nature, déterminant la borne infranchissable à notre essor. Mais tout penchant qui propose un but supérieur à l'exercice de nos facultés mentales ne saurait être illicite. Il doit au contraire, étant inséparable de la nature humaine d'où il dérive, tendre à l'accomplissement des fins de notre existence, lequel implique nécessairement le développement le plus étendu et le plus parfait possible de nos facultés physiques et intellectuelles. Je sais, mon cher Bramine, je ne puis vraiment te qualifier autrement d'après ta manière d'envisager la vie, qu'en voilà bien assez pour te provoquer à la controverse, puisque ta conduite est basée sur l'opinion opposée à celle que je viens seulement d'indiquer. Sois persuadé toutefois que j'estime ta vie contemplative et tes effets pour pénétrer dans les mystères de la nature par une application d'esprit de plus en plus soutenue. Mais pourquoi, bornant timidement tes désirs à jouir dans une extase inactive de l'aspect merveilleux de cette clé de diamant étincelante, ne pas la saisir d'une main hardie et ferme pour t'ouvrir le mystérieux domaine sur le seuil duquel tu resteras autrement livré à un scepticisme éternel? Tu es armé et équipé pour la lutte, pourquoi languir dans une lâche inertie? Toute existence est le prix d'un combat, et un combat elle-même. Dans une progression relative, la victoire appartient au plus fort, et le vassal subjugué sert à augmenter la puissance du vainqueur. Tu sais, mon cher Théobald, comment j'ai toujours envisagé ce combat par rapport à l'action des intelligences, comme j'ai hardiment soutenu que la prépondérance de l'homme favorisait de la nature, même dans l'ordre mystérieux des choses spirituelles, la domination qu'il y peut exercer contribue à accroître ses forces et double son élan pour fournir une carrière plus large encore. Or, nous disposons, pour ainsi dire à notre gré, nous du moins, en qui réside cette énergie, cette force transcendante, de l'arme qui nous sert à soumettre, à asservir le principe dépendant. Pourquoi donc avoir appelé magnétisme cette influence souveraine, cette action d'absorber en nous-mêmes et de mépriser par des moyens qui nous sont personnels le principe spirituel d'un être étranger? Dénomination insuffisante, ou plutôt qui ne désigne nullement, par l'idée qu'elle rappelle d'un agent purement physique, ce que nous prétendons exprimer. Ce devait être un médecin précisément qui révéla au monde ce grand secret, recelé jusqu'ici dans l'ombre d'un temple invisible comme son trésor le plus précieux, et qui posât en principe que le seul but de notre science devait consister dans l'assujettissement moral d'une individualité étrangère. C'est là ce qui, aux yeux des profanes, reste enveloppé sous le voile mystérieux des apparences, comme s'il n'était pas ridicule de croire que c'est pour guérir un mal de dents ou une migraine, et que sais-je encore, que la nature nous a confié le talisman merveilleux grâce auquel l'homme devient roi du monde des esprits. Non, c'est la domination absolue sur ce principe intelligent que ce talisman puissant nous assure en raison de notre habileté à le faire agir. Subjugué par sa vertu magique, l'intellect d'autrui ne doit plus exister qu'en nous et par nous, et c'est nous seuls qu'il doit alimenter et vivifier de sa substance. Le centre commun, le focus de toute spiritualité, c'est Dieu. Et bien au point où convergent le plus grand nombre de rayons en un seul faisceau flamboyant, là est plus restreinte la distance qui nous sépare du focus. Ces rayons se distribuent inégalement, mais ils embrassent la vie organique de toute la nature, et c'est à cette émanation du principe spirituel qui se manifeste dans les animaux et les plantes mêmes que nous reconnaissons leur commune origine. La tendance vers cette domination spiritualiste est donc la tendance vers la divinité, et le sentiment de la puissance acquise élève, en raison de sa force, le degré du bonheur, puisque l'idée constitutive du bonheur est aussi dans le focus. Combien, du reste, tout le bavardage provoqué par cette puissance sublime dont sont doués les vrais adeptes me semble pauvre et pitoyable, mais il est bien constant que la consécration intérieure, qui seule amène des résultats efficaces, dépend tout entière du point de vue excentrique dont je parle. D'après tout cela, tu pourrais croire que je m'abstiens complètement dans l'application de tout intermédiaire physique, mais il n'en est pas ainsi. C'est ici que nous tâtonnons encore dans les ténèbres. Tant que l'union mystérieuse de l'esprit avec le corps ne sera pas parfaitement éclairée par nous. Toutefois, il semble que les moyens dont nous usons ne soient entre nos mains que les insignes de la souveraine puissance auxquels se soumettent aveuglément des vassaux inconnus. Je ne sais moi-même, mon cher Théobald, comment j'en suis venu à te dire tant de choses sur un sujet dont je ne parle pas volontiers, car je sens que toutes ces paroles doivent paraître dénuées de sens si la conviction intérieure, produite par une organisation intellectuelle particulière, ne leur donne du poids et de la force. Je voulais répondre à ton reproche d'avoir cédé à l'entraînement d'un mouvement passionné en violant ce que tu appelles les principes moraux qui te servent de guide, et je ne fais que de m'apercevoir que, l'autre fois, je t'ai fait part de mes relations dans la maison de Baron d'une manière beaucoup trop décousue pour ne pas être mal compris. Or, j'ai pris du temps et de la peine pour me rappeler maintes circonstances de mon séjour ici, et si mon cher Brahmin, dans un moment d'exaltation exceptionnelle, veut consentir à me suivre en quelque sorte sur mon terrain, je serai facilement absous à ses yeux. Otmar est un de ces hommes nombreux qui, non dépourvus de raison et même doués d'une vivacité d'esprit enthousiaste, embrassent aisément ce qu'il y a de nouveau et de progressif dans le domaine de la science. Mais là se bornent leurs prétentions, et ils n'acquièrent ainsi qu'une connaissance superficielle des choses, tout en se félicitant de la puissance de leurs facultés, car leur esprit ne s'arrête qu'à la forme. Sans même se douter des secrets de l'intérieur, ils ont une intelligence incontestable, mais tout à fait dénuée de profondeur. Otmar, je te l'ai déjà dit, s'est amarré à moi, et voyant en lui le type d'une classe de jeunes gens extrêmement nombreuses, surtout aujourd'hui, je trouvais plaisant de me divertir à ses dépens. Il a foulé le sol de ma chambre avec la même vénération que si c'eût été le sanctuaire intime et inabordable du temple de Saès. Et, en revanche, de sa soumission passive et volontaire, digne d'un écolier régi par la férule, j'ai cru devoir le laisser disposer de quelques jouets innocents qu'il eût à montrer tout triomphant aux autres enfants en faisant glorieusement parade devant eux de la faveur du maître. Lorsque j'eus cédé à ses prières en l'accompagnant à la terre de son père, je trouvai dans le baron un vieillard capricieux, ayant pour acolyte un vieux peintre original et fantasque qui s'avise parfois de faire le bouffon moraliste et sentimental. Je ne sais plus ce que je t'ai dit d'abord sur l'impression que Maria produisit sur moi, mais je sens dans ce moment combien il me sera difficile de te définir ce que j'éprouve de manière à ce que tu puisses parfaitement me comprendre. Du reste, je m'en rapporte à la connaissance que tu dois avoir de mon caractère qui imprime à toutes mes idées et à toutes mes actions une tendance spiritualiste à jamais incompréhensible pour le vulgaire. Tu seras donc bien persuadé que, malgré sa taille élancée, telle qu'une plante magnifique qui, dans sa croissance luxuriante, se pare de feuilles et de fleurs aussi riches que délicates, malgré des yeux bleus dirigés vers le ciel, comme aspirant à saisir ce que dérobe à nos regards ce voile des nuages lointains, bref, malgré toute son angélique beauté, une jeune fille ne saurait me jeter dans la doucereuse langueur où tombe un ridicule amoroso. Ce fut uniquement la découverte instantanée d'une secrète relation spirituelle entre Maria et moi qui me pénétra d'une sensation vraiment extraordinaire. À la volupté la plus intime se joignit l'aiguillon irritant d'une rage secrète née de la résistance que je rencontrais dans Maria. Une force étrangère et hostile retenait mon esprit captif et contrariait mon influence. Par une puissante contention d'esprit, je parvins à connaître mon ennemi et je m'appliquai alors, dans une lutte opiniâtre, à concentrer sur moi, comme dans un miroir ardent, tous les rayons qui s'élançaient de l'âme de Maria. Le vieux peintre m'observait avec une attention toute particulière et paraissait se douter de l'effet produit sur moi par la jeune fille. Ce fut peut-être mon regard qui me trahit, car l'esprit est tellement contraint par le corps que le moindre de ses mouvements, en oscillant dans les nerfs, agite en dehors et modifie les traits du visage, du moins le regard de nos yeux. Mais combien la manière triviale dont il prit la chose eut lieu de me divertir. Il parlait à tout propos devant moi du comte Hippolyte, le futur époux de Maria, et plus il développait à plaisir le programme pompeux de toutes ses vertus, plus il me donnait à rire en dedans de moi-même des affections pitoyables que les hommes embrassent avec une passion si sotte et si puérile. Plus je me réjouissais d'être initié à ces unions autrement profondes, nouées par la seule nature, et de posséder assez de puissance pour les vivifier et les féconder. Absorber l'esprit de Maria en moi-même, assimiler, pour ainsi dire, tellement tout son être au mien que la rupture de cet enlacement intime dut causer son propre anéantissement, telle était la pensée qui, en me procurant un bonheur suprême, ne tendait qu'à accomplir les volontés préexistantes de la nature. Cette étroite conjonction spirituelle avec la femme, qui surpasse de toute la hauteur du ciel en sentiment de béatitude, toute jouissance animale, même le plus délectable et la plus vantée, convient à un prêtre d'Isis, et tu connais d'ailleurs mon système sur ce point, je ne peux t'en dire davantage. La femme a reçu de la nature une organisation passive dans toutes ses tendances. C'est dans l'abandon volontaire de sa personnalité, dans sa facilité, son empressement, pour ainsi dire, à se laisser imposer par un être étranger, différent de soi, la vénération et le dévouement dus à un principe supérieur, que consiste la véritable ingénuité qui caractérise la femme et dont la conquête et l'absorption en soi procurent une volupté sans égale. Depuis lors, malgré mon départ de la terre du baron, je restais spirituellement auprès de Maria, et quant aux moyens dont je me servis pour me rapprocher d'elle matériellement en secret, afin d'agir plus efficacement sur sa volonté, je les passerai sous silence. Ce sont des détails qui paraîtraient mesquins, quoiqu'ils dussent atteindre le but proposé. Bientôt après, par suite de mes manœuvres, Maria tomba dans un état fantastique, qu'Otmar dut naturellement considérer comme une maladie de nerfs, et, ainsi que je l'avais prévu, je revins dans la maison à titre de médecin. Maria reconnut en moi celui qui déjà lui était souvent apparu dans ses rêves comme son souverain dans tout l'éclat de la puissance, et ce qui n'avait été jusque-là peut-être qu'une illusion vague et confuse, vint frapper alors son esprit comme une réalité palpable. Il a suffi de mon regard, de ma ferme volonté pour la mettre dans l'état de somnambulisme, c'est-à-dire pour déterminer en elle la déchéance complète du « moi », et transporter l'essence de sa vie dans la sphère supérieure du maître. Mon esprit l'accueillit donc et lui imprima l'élan nécessaire pour s'envoler de la prison matérielle qui la retenait captive. Ce n'est plus que dans cette absolue dépendance de moi que Maria peut continuer à vivre. Et elle est heureuse et tranquille. L'image d'Hippolyte ne doit plus se présenter à elle que sous des contours indécis, qui bientôt s'évanouiront eux-mêmes en fumée. Le baron et le vieux peintre me voient d'un œil méfiant, mais j'admire encore en cela le haut degré de la puissance dont m'a doué la nature et qui leur impose la pénible obligation de reconnaître ma supériorité, tout en me résistant. Tu sais de quelle étrange manière j'ai fait la conquête d'un trésor de connaissances secrètes. Jamais tu n'as voulu lire ce livre, et tu aurais été surpris cependant d'y voir développer bien mieux que dans aucun traité de physique les rares propriétés de quelques forces de la nature et les magnifiques résultats de leur emploi. Je ne dédaigne pas de préparer avec soin certaines choses fort utiles comme accessoires. Et peut-on bien crier à la fraude ? Parce que le badaud vulgaire s'étonne et s'effraie de ce qu'il regarde à un juste titre comme surnaturel ? Car la connaissance des véritables causes détruit seulement la surprise, et non le phénomène. Hippolyte est colonel en activité, par conséquent en campagne. Je ne désire pas sa mort. Il peut revenir, et mon triomphe en sera plus magnifique, car la victoire est certaine. L'adversaire dut-il être plus redoutable que je ne l'imagine ? Tu peux croire avec confiance que le sentiment de ma force, etc., etc., etc.